de la vie et de la terre.
Cours de SVT. Terminale spécialité. Thématique. La terre, la vie et l'organisation du vivant. Grand A. Génétique et évolution. Chapitre 1. L'origine du génotype des individus. Introduction. L'ensemble des gènes d'un individu constitue ce qu'on appelle le génotype. Ce génotype varie en fonction des allèles de chacun et est responsable du phénotype. Or, le génotype des individus est un héritage de milliards d'années d'évolution. Il est hérité des parents et dépend en partie du type de reproduction de ceux-ci. Il y a deux types de reproduction, soit la reproduction asexuée, soit la reproduction sexuée. Sur notre planète, et d'après les quelques 2 millions d'espèces dénombrées et décrites à ce jour, seuls 2000 sont strictement asexuées. Toutes les autres possèdent une reproduction sexuée. Malgré tout, certaines espèces cumulent les deux modes de reproduction, ce qui prouve qu'il y a un intérêt à maintenir une reproduction asexuée aussi. Alors posons tout de suite les problèmes. Comment expliquer que 98% des espèces aient une reproduction sexuée? Quelles conséquences les deux types de reproduction ont-elles sur les génotypes des descendants? Quels mécanismes cellulaires favorisent la stabilité génétique et lesquels favorisent la variabilité? Et puis, comment les expliquer? Alors grand 1. Reproduction asexuée et stabilité génétique. Il faut vous appuyer aussi pour revoir ce cours du TPTD sur clones et stabilité génétique lorsqu'on a parlé de Pando. Grand A, clones et stabilité génétique. La reproduction asexuée est assurée par la mitose, c'est-à-dire une division permettant à une cellule mère de se diviser en deux cellules filles identiques à la cellule mère. La mitose est précédée par la réplication semi-conservative, ce qui permet de conserver le génome et le génotype d'une génération cellulaire à la suivante. Lors de la phase S de l'interphase précédant la mitose, le patrimoine génétique est donc copié à l'identique, c'est-à-dire une formation de chromosomes à deux chromatides. Les cellules en division possèdent donc deux copies du génome. Chaque copie est ensuite envoyée dans une des deux cellules filles lorsque, en anaphase, les chromatides sœurs de chaque chromosome se séparent et migrent chacune dans une des deux cellules filles. La mitose est donc un mécanisme qui favorise la stabilité des génotypes au cours des générations d'individus issus de reproduction asexuée. En document 1, vous avez le schéma de la mitose qui est à savoir par cœur. N'oubliez pas, quand vous représentez cette mitose, de faire des chromosomes de couleurs différentes. Ainsi, une succession de mitoses produit des cellules toutes théoriquement génétiquement identiques. Elles forment, ensemble, un clone. Ces clones peuvent être constitués de cellules qui se séparent. C'est le cas de nombreuses bactéries, mais aussi de nos cellules sanguines, par exemple. Sinon, les cellules peuvent être associées dans un tissu grâce à une matrice extracellulaire qui les maintient ensemble. C'est le cas des différents organes d'un individu. Alors, quelques définitions d'abord. Mitose, c'est la division cellulaire qui permet une répartition égale de l'information génétique d'une cellule mère initiale à deux cellules filles, au final, tout en conservant le caryotype au fil des générations cellulaires. Clone, alors, pour un individu, c'est un être vivant engendré par un parent unique sans sexualité, c'est-à-dire par reproduction végétative ou asexuée, et par conséquent identique, d'un point de vue génétique, à son parent. Pour une cellule, c'est l'ensemble des cellules résultant des divisions successives d'une cellule donnée sans aucune différenciation. Ces cellules sont donc identiques à la cellule initiale ou cellule mère. Sous-clone, c'est un ensemble de cellules qui diffèrent légèrement, notamment à cause de mutations, des autres cellules du clone. Enfin, matrice extracellulaire. Alors, c'est un groupe de mots qui ne vous est pas étranger puisque vous l'avez vu en seconde. C'est le réseau moléculaire sécrété par les cellules et entourant ces dernières en les maintenant unies, dont le tout forme finalement un tissu. Alors, que permet la mitose? En fait, la mitose, elle permet la croissance d'un organisme de la cellule œuf à l'adulte, ainsi que le renouvellement tout au long de sa vie, de ses cellules comme par exemple les cellules sanguines ou les cellules de la peau chez les animaux. Chez les végétaux, la mitose participe à la croissance des organes, comme la racine ou la tige, par augmentation du nombre de cellules. Ce mécanisme s'appelle la mérèse et vous l'avez vu dans le chapitre 1, la structure des plantes à fleurs. La division cellulaire est un phénomène contrôlé. Or, un défaut de ce contrôle peut aboutir à la prolifération anarchique des cellules, c'est-à-dire à leur immortalité finalement, et à la formation de tumeurs. Alors définissons le mot tumeur. Une tumeur, c'est une grosseur plus ou moins volumineuse due à une multiplication excessive de cellules. Soit ces cellules sont normales, dans ce cas-là on parlera de tumeur bénigne, soit elles sont anormales et on parlera de tumeur maligne. Les tumeurs bénignes, comme par exemple les grains de beauté, les verrues, se développent de façon localisée sans altérer les tissus voisins. Les tumeurs malignes, en revanche, sont appelées cancers et ont tendance à envahir les tissus voisins et à migrer dans d'autres parties du corps, produisant ce qu'on appelle des métastases. Quand un cancer localisé génère des métastases, alors à ce moment-là, le cancer est difficilement maîtrisable, puisque d'autres cancers peuvent apparaître à d'autres endroits. Alors revenons-en à la mitose. Toutes les cellules d'un organisme possèdent ainsi le même génome, et donc le même génotype. Chaque organisme peut donc être considéré comme un clone cellulaire. Or, si plusieurs individus possèdent le même génome, issu de la reproduction asexuée ou de clonage artificiel, et qu'ils restent tous connectés, on peut donc considérer qu'ils forment également un clone, comme par exemple la forêt de Pando. Grand B, variabilité génétique des clones. On peut noter une variabilité génétique entre les populations clonales qui sera d'autant plus marquée que la population clonale sera grande. En l'absence d'échanges génétiques avec l'extérieur, la diversité génétique dans un clone résulte de l'accumulation de mutations successives dans les différentes cellules. Ces mutations sont le plus souvent liées à des erreurs de réplication de l'ADN en phase S, même si, à chaque division, elles sont plutôt rares. Le taux moyen est de 1 mutation pour 1 million de paires de nucléotides copiés. Ce taux est variable selon les espèces, le type cellulaire et peut être amplifié par l'environnement à cause d'agents mutagènes, comme par exemple les UV, ou des agents chimiques tels que la cigarette. Lorsqu'une mutation a lieu dans une cellule, elle est transmise à l'ensemble des cellules qui en sont issues et qui forment alors un sous-clone génétiquement différent des autres cellules du clone lui-même. Même si c'est légèrement. Chez l'humain, on estime à 10 puissance 18 le nombre de mutations somatiques qu'un individu subira au cours de sa vie. Alors attention, voici un lien avec le chapitre que l'on verra après sur les transferts horizontaux. Dans leur environnement, les espèces à reproduction asexuée peuvent avoir quand même des échanges génétiques avec l'extérieur et s'échanger des gènes. Donc c'est ce qui va favoriser la diversification génétique dans ces populations qui n'utilisent que le clonage et faciliter l'évolution de ces espèces. C'est le cas beaucoup des bactéries. Grand C, conséquences des mutations. Les mutations peuvent avoir des conséquences variées en fonction de leur localisation dans le génome et le type cellulaire de l'individu. Le génome humain est constitué de 98% de séquences non codantes, c'est-à-dire non transcrites pour faire des ARN ou des protéines, comme par exemple les introns, les séquences répétées, etc. La plupart des mutations ayant lieu dans ces séquences n'ont donc pas d'influence sur le phénotype. Mais parmi ces séquences non codantes, certaines sont liées à des séquences codantes et forment ce qu'on appelle un système génique. On les appelle des séquences régulatrices. Elles sont le lieu de fixation de facteurs de transcription qui vont permettre d'initier et de réguler la transcription d'un gène, par exemple son intensité, c'est-à-dire le nombre de protéines produites. Son lieu, est-ce que c'est plutôt au niveau d'un œil, est-ce que c'est plutôt au niveau de la peau, etc. Sa chronologie, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt lors de l'embryogenèse ou plutôt dans la phase adulte qu'a lieu sa synthèse. Et enfin, sa durée d'expression, est-ce que ça a lieu pendant toute la vie de l'individu ou est-ce que ça intervient à un moment très défini, histoire d'avoir un mode de régulation, ou en tout cas cette protéine, à un moment donné de la vie. Alors, des mutations dans ces séquences entraînent donc des modifications phénotypiques parfois considérables, sans modification pourtant de la protéine concernée. Et ça, vous avez pu le voir dans les mouches Antenapedia en TP. Quant aux mutations qui ont lieu dans les séquences codantes, elles modifient le plus souvent la structure de la protéine et entraînent donc des modifications phénotypiques visibles directement. Les modifications qui ont lieu ont un effet le plus souvent légèrement délétère, beaucoup moins souvent franchement délétère et rarement létal, et quasi jamais avantageux. Cette observation se comprend facilement si l'on considère que les systèmes génétiques sont les résultats de processus d'optimisation par sélection naturelle, qui se sont déroulés pendant des millions, voire même des milliards d'années, et qu'il est donc plus facile de les détériorer que de les améliorer. Les mutations ayant lieu dans les cellules somatiques sont généralement à l'origine de dysfonctionnements cellulaires. Les cellules peuvent par exemple acquérir une capacité de division infinie, de migration dans l'organisme et former des métastases. Dans ce cas-là, on parlera de tumeurs cancérigènes, comme on l'a cité précédemment. Mais dans tous les cas, ces mutations disparaîtront à la mort de l'individu. Grand 2. Reproduction sexuée et diversité génétique. Alors il faut être clair, la reproduction sexuée procure un avantage non négligeable en termes d'évolution en produisant des individus génétiquement différents des parents, créés par la réalisation en fait de nouvelles combinaisons d'allèles au cours du cycle de la reproduction. C'est ce qu'on appelle du brassage génétique. Alors, quel est l'intérêt de procéder ainsi? En fait, ces individus génétiquement différents sont potentiellement adaptables à différents milieux et aux variations de ce milieu, ce qui explique les 98% des espèces qui ont une reproduction sexuée. Alors, pour illustrer cette notion, imaginez une espèce A. Cette espèce A a plusieurs sous-populations A1, A2, A3, avec des combinaisons d'allèles qui sont toutes différentes. Si jamais le milieu change et qu'il devient favorable à l'ensemble en fait, des populations, des sous-populations de cette espèce, comme par exemple à A1, A3, A4, A5, A6, etc. Mais que A2 a la bonne combinaison pour pouvoir survivre à ces modifications d'environnement, alors l'espèce survit. Et c'est la sous-population A2 qui va devenir majoritairement représentante de l'espèce. Grand A, vocabulaire de génétique. Et alors, d'abord, quelques définitions. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un karyotype ? C'est la présentation ordonnée du nombre et de la forme des chromosomes d'un individu ou d'une espèce. Ploïdie. Cela caractérise le nombre de lots de chromosomes contenus dans une cellule. Par exemple, une cellule possédant un seul lot de chromosomes est haploïde. La formule chromosomique est donc N égale au nombre total de chromosomes. Pour une cellule possédant deux lots de chromosomes, on appellera ces cellules des diploïdes. Donc la formule chromosomique est 2N est égale au nombre total de chromosomes. Un des lots est hérité du père, l'autre de la mère. Dans un karyotype, ils sont rangés toujours par paire. Les deux chromosomes de ces paires sont dits homologues, car ils possèdent les mêmes gènes. Mais attention, pas forcément les mêmes allèles. Alors attention, dans la nature, il existe aussi des individus polyploïdes. C'est souvent le cas dans le monde végétal. Par exemple, un individu tétraploïde, c'est un individu qui aura 4N chromosomes. C'est le cas de la pomme de terre. Ou hexaploïdie, par exemple, 6N chromosomes. C'est le cas du blé tendre. Donc attention, la formule chromosomique notée 2N égale nombre total de chromosomes correspond à des paires de chromosomes, qu'ils soient simples ou doubles, c'est-à-dire à simple chromatide ou à double chromatide. Cela a comme corollaire que la formule chromosomique notée N égale nombre total de chromosomes peut aussi être appliquée à une cellule possédant des chromosomes à deux chromatides. Phénotype. C'est l'ensemble des caractères d'un individu. Par convention, on écrit le phénotype entre crochets en utilisant les symboles pour les caractères considérés. Génotype. C'est l'ensemble des allèles d'un individu. Par convention, on écrit le génotype entre parenthèses en utilisant les symboles pour chaque allèle considéré. Génome. C'est l'ensemble des gènes d'un individu ou d'une espèce. Gène. Attention à la définition de ce terme qui doit être maîtrisé depuis la seconde. C'est la portion d'ADN précise, portant l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine et donc à l'expression d'un caractère. Allèle. C'est la version d'un gène se distinguant d'une autre version par une ou plusieurs différences dans la séquence nucléotidique et donc induisant une variation du caractère exprimé. Hétérozygote. Cela qualifie un individu portant deux allèles différents pour un gène donné. Homozygote. Cela qualifie un individu portant deux allèles identiques pour un gène donné. Dominant. Ce qui qualifie un allèle s'exprimant toujours et dont l'expression confère à la cellule, à l'organisme, un phénotype qui semble dominer les autres. Il est représenté le plus souvent par une lettre majuscule ou une lettre minuscule suivie d'un plus. Récessif. Cela qualifie un allèle dont l'expression est masquée, c'est-à-dire non visible, dans le phénotype d'un individu hétérozygote, et qui ne s'exprime que chez un individu homozygote. Il est donc représenté le plus souvent par une lettre minuscule, et c'est tout. Lignée pure ou souche pure. Ce sont des individus dont le génotype est connu et stable. Ils sont forcément homozygotes pour le gène étudié. Monohybridisme. C'est l'étude d'un croisement entre deux parents qui diffèrent par un seul caractère, c'est-à-dire qu'on n'aura qu'un seul gène incriminé. Et donc par opposition, dit hybridisme, cela correspond au croisement de deux organismes parents différents par deux caractères héréditaires, c'est-à-dire gouvernés par deux gènes. Grand B, méiose et fécondation, la base du brassage génétique. Alors n'oubliez pas que pour cette partie-là, vous avez une activité qui est l'activité A0 qui revient sur les bases génétiques de première. Chez les individus pratiquant la reproduction sexuée, le cycle de développement est ponctué par deux processus complémentaires. La méiose, d'un côté, et la fécondation de l'autre. Ce qui délimite une phase haploïde, dans la fabrication des gamètes grâce à la méiose, à N chromosomes, et une phase diploïde qui correspond à l'ensemble de toutes nos autres cellules, c'est-à-dire les cellules somatiques ou même germinales, c'est-à-dire les cellules souches de nos gamètes. La méiose est le processus permettant la formation des gamètes dans les gonades. C'est une succession de deux divisions. La première est réductionnelle, c'est-à-dire qu'il y a séparation des chromosomes homologues, mais la seconde est équationnelle, il y a séparation des chromatides sœurs. N'oubliez jamais que les chromatides sœurs sont identiques l'une à l'autre. À partir d'une cellule germinale diploïde, il y a donc formation de 4 gamètes, c'est-à-dire de cellules haploïdes à N chromosomes. La première division est toujours précédée d'une réplication de l'ADN permettant d'obtenir des chromosomes doubles. La fécondation correspond à la fusion de 2 gamètes haploïdes, soit d'un ovule avec un seul spermatozoïde. Cette fusion aboutit à la formation d'une cellule œuf ou zygote, de nouveau diploïde, c'est-à-dire 2 N chromosomes. Méiose et fécondation sont donc des processus compensateurs. Leur alternance assure le maintien du karyotype d'une génération à l'autre, permettant ainsi la conservation du nombre de chromosomes caractéristiques de l'espèce. Attention, le schéma de la méiose doit être maîtrisé parfaitement. Grand C. Les lois de l'hérédité. Ce grand C s'appuie sur l'activité A1 de Mendel et Morgan avec la reproduction sexuée et la diversité génétique. Alors attention à ce qui va suivre, c'est vraiment très important. Tout d'abord, il faut bien apprendre le vocabulaire, les conventions d'écriture génétique et la méthodologie d'analyse génétique. Ensuite, il faut bien savoir réutiliser les schémas de la méiose, pour expliquer et placer les allèles correctement avec leurs abréviations et l'écriture ad hoc. Attention, des schémas explicatifs comme les crossing over peuvent être aussi demandés. Alors allons-y pour les lois de l'hérédité. C'est Gregor Mendel qui a été le tout premier à mettre en avant des principes fondamentaux de la génétique. En effet, il a réalisé de nombreux croisements, et surtout célèbres chez le pois, entre parents de phénotypes distincts afin de comprendre les mécanismes de transmission et de brassage, de ce qu'il a appelé des mélanges, de caractères sur plusieurs générations lors de la reproduction sexuée. En 1866, il en déduit les trois lois de l'hérédité mettant en évidence les notions fondamentales de la génétique. Tout d'abord, les notions d'homozygosie et d'hétérozygosie. Petit rappel, l'homozygosie concerne des couples d'allèles identiques, tandis que l'hétérozygosie concerne des couples d'allèles qui sont différents. Le deuxième principe génétique mis en avant par Mendel a été la dominance et la récessivité de certains phénotypes, notamment lorsque des allèles sont brassés génétiquement et lors de la formation des gamètes. En effet, on peut observer dans ce cas-là que certains phénotypes sortent dominants, c'est-à-dire sont plus représentés, que d'autres qui sont moins représentés, qu'on appellera récessifs. En étudiant les petits pois, il a poussé son étude jusqu'au dit hybridisme. Alors en quoi consiste le dit hybridisme ? En fait, il s'agit d'étudier 4 caractères au total, mais 2 caractères par 2 caractères, c'est-à-dire qu'à chaque fois on retrouve chez les petits pois des caractères associés. Par exemple, le petit pois ridé, jaune, le petit pois lisse, vert. Ainsi, il existe 2 gènes, un gène pour l'aspect ridé lisse et un gène pour la couleur, c'est-à-dire jaune ou vert. On a bien une étude de la transmission de 2 gènes à travers différents croisements. C'est cela qu'on appelle le d'hybridisme. Quelle conclusion en tire-t-il ? Il observe que les mêmes lois s'appliquent, mais cela ne fait appel qu'à des gènes portés par des chromosomes différents. Il faudra alors attendre que Morgan étudie les drosophiles pour aboutir à la notion de gène lié. Alors développons un tout petit peu ce qu'a découvert Mendel. De ses observations, il déduit 2 principes fondamentaux, auxquels on ajoutera plus tard un troisième qui en découle. C'est précisément des expériences menées sur les pois qui permirent à Mendel de formuler les principes intervenant dans l'hérédité. C'est pourquoi, même s'il a fait d'autres études génétiques, on résume souvent son travail à l'étude des petits pois. Alors que découvrit Mendel ? Un caractère peut présenter 2 formes différentes, aujourd'hui appelées allèles ou gènes homologues. Un organisme hérite de 2 facteurs pour chaque caractère, ce que Mendel a appelé facteur héréditaire est aujourd'hui appelé allèle. Le phénotype dominant masque celui qui est récessif. Mendel a noté le phénotype dominant à l'aide d'une majuscule et l'autre, le récessif, à l'aide d'une même lettre mais en minuscule, ce qui a donné les préceptes finalement de la notation génétique. Il a par la suite fait le lien avec les facteurs héréditaires. Les 2 facteurs se séparent durant la formation des gamètes. C'est ce qu'on appelle la loi de ségrégation qui correspond à la séparation des paires de chromosomes homologues durant la méiose. Les paires de facteurs se séparent de façon indépendante les unes des autres. C'est ce qu'on appelle la loi de ségrégation indépendante qui correspond à l'assortiment indépendant des paires de chromosomes homologues à la métaphase 1 de la première division méiotique. A noter que ceci n'est possible que si les gènes sont indépendants et ne sont disposés que sur des chromosomes différents. Ainsi, les 3 lois qui découlent de ces observations et encore en application aujourd'hui sont les suivantes. Alors la première loi, c'est une loi d'uniformité des hybrides de première génération. Effectivement, si 2 homozygotes sont croisés par rapport à un seul caractère, tous les descendants qu'on appellera de la famille 1, c'est-à-dire F1, sont identiques et leur phénotype qui s'exprime reflète la relation de dominance ou codominance d'un phénotype par rapport à l'autre. La deuxième loi de l'hérédité est une loi de disjonction des allèles. Effectivement, en croisant un individu de F1 avec un autre individu de F1, on observe un déséquilibre dans le nombre de descendants de phénotypes dominants et récessifs, avec une distribution de type 3 quarts pour les dominants et 1 quart pour les récessifs. La troisième loi est une loi d'indépendance de la transmission des caractères. Cette règle ne s'applique que si les gènes responsables des caractéristiques se situent sur différents chromosomes ou s'ils sont éloignés sur le même chromosome. Notez que ce qui a manqué à Mendel dans son étude, c'est le support de l'information, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ADN ou les chromosomes, et notamment la possibilité d'échanges intrachromosomiques entre les chromosomes homologues. Mais c'est Morgan qui va reprendre la suite en 1910, et il entreprend de vérifier ces lois en travaillant sur les croisements de drosophiles. Il met en évidence que tous les gènes ne sont pas forcément indépendants, c'est-à-dire séparables facilement dans les gamètes. En effet, de nouveaux phénotypes, différents des phénotypes parentaux, apparaissent selon des proportions déterminées. Les phénotypes sont dits recombinés. Des échanges entre chromosomes homologues peuvent s'opérer, on appelle cela des crossing over, ou encore des enjambements, ou alors des chiasmas. Il démontra entre autres qu'il existe une hérédité liée au sexe. En effet, chez de nombreuses espèces, les femelles possèdent deux chromosomes sexuels homologues avec les mêmes gènes et donc deux allèles pour chaque gène. Les allèles récessifs seront masqués par les dominants, mais les mâles, qui ont deux chromosomes sexuels différents, possèdent certains allèles en un seul exemplaire, et donc ceux-ci s'exprimeront alors systématiquement. Cela modifie donc les proportions type d'apparition de certains caractères, et même si on conserve le 3 quarts 1 quart, on verra des proportions différentes selon le sexe. Attention, il faut pouvoir dessiner un crossing over correctement. Ce podcast est scindé en deux. Cette première partie s'attache plus à la théorie. La deuxième partie va se consacrer à l'étude de cas. Thank you.